Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sur J'enrage, sur... Enfin, vous êtes bien avec J'enrage sur...
RCV
99FM, merci Zab. Et il est 14h, un peu plus. Nous sommes le dimanche octobre, donc je suis avec Zab. Et la chanson qu'on vient d'écouter, qui est la chanson de lancement de J'enrage, comme on la présente jamais, je vais le faire aujourd'hui, c'est Gina X, No GDM, tirée de l'album Nice Mover, sorti en 1979. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur l'agenda. En ce moment, il y a un festival féministe, donc on va vous détailler les dates de ce festival. Ensuite, Zab présentera une news, voilà. Je vais revenir sur, sur un article, une interview plutôt, de Xavier Dolan, paru dans Télérama, et dont on a pas mal parlé parce qu'il fait un peu polémique. Ensuite, Zab parlera de la Bourmesse, la foire du livre de Francfort, et reviendra sur la littérature finnoise. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si on a encore un peu le temps, on verra, on a d'autres petites surprises en stock.
Alors tout de suite, Mad News, c'est quoi? Alors c'est un peu le comble du comble, c'est une grosse blague. C'est vraiment le patriarcat dans son expression la plus stupide. C'est un article que j'ai vu aujourd'hui. Du coup, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 octobre, pendant l'examen du projet de loi sur la transition énergétique à l'Assemblée nationale, un député UMP du Vaucluse, qui s'appelle Julien Aubert, a refusé d'appeler la présidente de séance, Sandrine Mazetier, Madame la Présidente, et il s'est obstiné à l'appeler Madame le Président pendant toute la séance de l'Assemblée. Du coup, cette Sandrine Mazetier, donc la présidente de séance, a demandé une inscription sur procès-verbal. Et du coup, il a une sanction d'un quart de mois d'indemnité parlementaire, ce qui équivaut à quand même 1378 euros. Donc voilà, déjà, c'est un peu une grosse blague. Et ensuite, vendredi dernier, donc vendredi 10 octobre, il y a exactement 2 jours, ses petits amis députés ont publié dans Le Figaro une tribune pour voler au secours de ce Julien Aubert. Le titre de la tribune, vous allez rire, « Madame le Président, l'ultimatum de 140 députés de l'opposition à Claude Bartolone ». Donc en gros, ce qui revendique dans cette tribune, c'est... le droit à parler correctement français et à appeler une présidente de séance Madame le Président. Et en gros, il s'insurge et c'est un peu une réaffirmation de la domination masculine dans le langage par des députés, quoi. Et il s'insurge vraiment. En fait, leurs propos sont vraiment, vraiment assez drôles. C'est à voir. Ils parlent de stupidité, pas de stupidité. Ils disent que ça en fait une affaire qui est complètement... ridicule, alors que c'est eux qui sont ridicules à vouloir s'obstiner à l'appeler Madame le Président. Et voilà, on vous mettra un petit article en ligne. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste complètement consternant et.
Pff. Fallait en parler.
Voilà.
Vite fait.
C'est un peu un no comment.
Je te laisse commencer à présenter l'agenda.
Tout de suite, l'agenda. Donc, effectivement, comme disait Annaëlle, il y a un festival en ce moment qui s'appelle EBIM, Festival Féministe, qui se déroule sur 3 lieux au centre J'en suis, j'y reste, 19 rue de Condé, si je ne me trompe pas. À chez Violette, c'est place Van Honecker. Et ensuite, au CCL, là, je ne me souviens pas du nom de la rue, donc le Centre culturel libertaire de Lille. Et du coup, hier, il y a eu un premier concert avec Dykes Sbire, c'est du hip-hop de Lille, et Chaneka, un groupe de reggaeton transféministe de Paris. C'est très vraiment cool, donc pour ceux qui étaient, tant mieux pour vous. Pour les autres, vous avez loupé quelque chose, essayez de ne pas louper ce qui arrive.
Aujourd'hui, donc de 13h30, donc ça a commencé jusqu'à 15h30, il y a une chorale féministe.
Chez Violette.
Ouais, une chorale féministe chez Violette.
Non mixte, 100 mecs 6, donc 6 genres.
Et de 16h30 à 18h, il y a, c'est toujours chez Violette, une initiation au sport de combat, non mixte aussi.
Le lundi 13, donc demain de 18h à 21h, un atelier lutte anticarcérale et féminisme au CCL, toujours non mixte.
Mardi 14, de 19h à 23h, il y a une discussion autour du consentement au centre J'en suis, j'y reste.
Le mercredi 15 de 14h à 18h, une animation pour les enfants avec autour de vœux et de lectures sur les représentations de genre, c'est chez Violette. Et de 19h à 23h, une discussion à propos de l'antiféminisme au CCL.
Le jeudi 16 octobre, de 19h à 23h, il y a une discussion « Idées en libre-service », donc ça c'est le titre, autour de la lutte contre l'islamophobie. Et il faut aller voir le lieu sur le blog du festival et c'est sous réserve d'inscription, je pense.
Le vendredi 17 à 20h, concert non mixte, Vagina Dentata, un groupe de punk féministe originaire de Gand, Pietra Pied de Biche, dont on va vous passer une chanson dans pas très longtemps, qui est du Cold Wave d'Amiens, et Jojo qui envoie du gros, DJ local, trop de la balle, ce sera au CCL.
Samedi 18 octobre de 10h à midi, il y a un atelier chat à modeler.
En non-mixité.
Merci. Voilà, j'en suis, j'y reste. En mixité, donc c'est sans mec. Et à 21h, une marche de nuit non mixte aussi. Il faut voir sur le blog pour le lieu du rendez-vous. Et à 23h, une soirée boom en non mixité chez Violette.
Et enfin, le dimanche 19, de 10h à 18h, un atelier d'autodéfense féministe non mixte chez Violette. Et de 19h à 22h, une cantine végane au Vensuis, j'y reste. À part ça, toujours dans l'agenda, juste après ce festival, il y aura le festival Homo. On ne vous le présentera pas en détail aujourd'hui. Ça se déroule du 26 octobre au 15 novembre au centre Vensuis, j'y reste. Et il y aura pas mal d'ateliers qui ont été organisés pendant les universités d'été, les UEH de cet été qui se sont déroulés à Marseille. Donc ceux qui n'ont pas pu y aller, comme moi par exemple, je vous invite à y aller.
Et moi, je voudrais revenir sur certaines sorties ciné. Il y a au cinéma en ce moment, il n'est pas encore sorti, il sera mercredi prochain, Une nouvelle amie. Qui a l'air sympathique. Comme il n'est pas encore sorti, on l'a pas encore vu, mais il est en avant-première en ce moment, lundi soir, je pense. Il y a Bande de filles qui sort le 15 aussi. Il y a Mommy de Xavier Dolan qui est sorti le 8. Et il y a Pride qu'il faut voir, qui est en ce moment au Méliès et qui sort le 15 au Kino. Voilà.
Voilà, petite pause musicale. On vous met Pétra Pied de Biche qui passe donc vendredi prochain au CCL, si je me souviens bien. C'est ça exactement. A tout de suite, et le nom de la chanson, Boniche.
Je n'ai jamais appris à faire la vaisselle, et je n'ai pas la fibre autodidacte. Je n'ai jamais appris à faire la vaisselle, et je n'ai pas la fibre autodidacte. Qu'importe mes lacunes en sciences domestiques, comme on me l'a appris, le service est compris. Qu'importe mes lacunes en sciences domestiques, comme on me l'a appris, le service est compris. Maman boniche, chérie boniche, boniche ma fille. Ma sœur boniche, cousine boniche, boniche ma biche. Maman boniche, chérie boniche, boniche ma fille. Ma sœur boniche, cousine boniche, boniche ma biche. Est-ce ma faute si aucune boniche ne m'a jamais appris à faire la boniche? Est-ce ma faute si aucune boniche ne m'a jamais appris à faire la boniche? Suis-je coupable si par la naissance je suis née turgescence et non boniche? Suis-je coupable si par la naissance je suis née turgescence et non boniche? Boniche ma fille, ma sœur boniche, cousine boniche, boniche ma biche. Maman boniche, chérie boniche, boniche ma fille. Ma sœur boniche, cousine boniche, boniche ma biche. Boniche, boniche. Boniche, tu me sers. Boniche, tu me soignes. Boniche, je t'ignore. Boniche, je t'insulte. Boniche, tu me sers. Boniche, tu me soignes. Boniche, je te frappe. Boniche, je te viole. Boniche, je te frappe. Boniche, je te viole. Boniche, je te cogne. Boniche, je te tue. Boniche, je te frappe. Boniche, je te viole. Boniche, je te cogne. Boniche, je te tue. Maman Boniche, chérie Boniche, Boniche ma fille. Ma sœur Boniche, cousine Boniche, Boniche ma biche. Maman Boniche, chérie Boniche, Boniche ma fille. Ma sœur Boniche, cousine Boniche, Boniche ma biche. Maman Boniche, chérie Boniche, Boniche ma fille. Ma sœur Boniche, cousine Boniche, Boniche ma biche.
Vous êtes toujours sur Jean Rage, 4 ans, monsieur. Nous, donc c'était Pietra Pied de Biche, Boniche. Nous allons maintenant vous parler d'une polémique autour de Xavier Dolan, qui a donné une interview à Télérama le 3 septembre 2014. Donc ce qui fait polémique, c'est pas toute l'interview, c'est une partie de l'interview où Xavier Dolan explique pourquoi il a refusé la Queer Palm. Donc la Queer Palm, c'est un prix cinématographique créé par comment il s'appelle, Franck Finance Madureira, pardon, excusez-moi pour cette hésitation. Donc voilà, et il a expliqué son refus de la Queer Palm par ses propos. Que de tels prix existent me dégoûte. Quel progrès y a-t-il à décerner des récompenses aussi ghettoisantes, aussi ostracisantes, qui clament que les films tournés par des gays sont des films gays ? On divise avec ces catégories, on fragmente le monde en petites communautés étanches. J'ai coupé le... Normalement ça continue, j'ai coupé le propos, c'est ce qui m'intéressait le plus là. Et la première personne, ou la seule personne en tout cas, à réagir vraiment à ces propos, c'est Romain Villet, le rédac-chef d'Hétéroclite, qui est un mensuel gay et lesbien lyonnais. Donc la réaction de Romain Villet est publiée dans YAG le 9 septembre 2014. Pardon. Et donc il qualifie les propos de Xavier Dolan de consternants. Et il rappelle qu'un film tourné par un gay n'est pas forcément un film gay. Il donne plusieurs exemples. Le Guépard de Visconti, par exemple, n'est pas un film gay alors que son réalisateur était gay. Ou Pride, dont je parlais tout à l'heure, qui est réalisé par un hétéro et qui parle de la communauté LGBT. Et ce qui... Enfin bref, je vais pas faire un truc sur Pride, mais voilà, ça parle entre autres de la communauté LGBT. C'est même pas tout le propos du film, c'est beaucoup plus large que ça. Et de rappeler aussi que le Xavier Dolan a obtenu la Queer Palm pour Lawrence Anyway, donc qui est sorti, j'ai plus la date exacte, mais il y a...
C'était l'année dernière, non ? Il y a 2 ans peut-être ?
Ouais, 2 ou 3 ans, moi je dirais, plus longtemps que ça. Qui, effectivement, met en scène un personnage qui est transgenre, et donc voilà, qui... On ne décerne pas, la Queer Palm n'a pas été décernée à Xavier Dolan pour l'ensemble de son œuvre, ou parce que lui-même est gay, mais parce que son film traite d'une question qui peut être prise par la communauté LGBT, ou qui en tout cas met en avant une question de transgendérisme. Ce qui gêne surtout Romain Villet et ce qui gêne aussi la lecture de l'interview de Xavier Dolan, c'est les propos de ghettoisation, de segmentation. Si on se détache un peu de la réaction de Romain Villet et de cette interview dans Télérama, on se rend compte quand même qu'on a besoin à un moment... C'est mon avis, mais on a besoin à un moment de nommer les choses et de les étiqueter pour pouvoir les penser. Et quand, même dans le milieu féministe, etc., quand on pense au concept de genre, tout est étiqueté finalement, même dans le féminisme. Il y a des sous-féminismes, on parle de féminisme de troisième vague, de deuxième vague, c'est le féminisme lesbien, le féminisme pute, enfin tout est sous-divisé. Et Xavier Dolan refuse cet étiquetage parce qu'il trouve que l'homosexualité devrait être normalisée ou en tout cas banalisée. On ne devrait plus la nommer ou en tout cas lui décerner des prix, etc. Parce que c'est quelque chose de banal qu'il faut sortir de cet étiquetage. Il y a un moment, dans les faits, on se rend compte que c'est pas le cas. Enfin, on est encore en train de tout étiqueter, on est encore en train de marginaliser l'homosexualité ou les questions LGBTQIF, même d'une manière générale. Enfin voilà, c'est, ce serait plutôt là, en se détachant un peu du propos de Romain Villet, ce serait plutôt une question polémique autour de l'étiquetage, etc. Zab, je ne sais pas trop ce que tu en penses.
Bah moi, je pense que même si on essaie de lutter ou d'essayer de faire en sorte que les luttes se convergent, donc que ce soit les luttes pro-pute ou pour plus de visibilité LGBTQIF, etc., on a besoin de ces catégories, on a besoin de ces noms. Et sinon, en fait, on se retrouve forcément dans le neutre universel qui est en fait le masculin blanc cis hétéro, quoi.
Bah jusqu'à présent, ouais, c'est ça. Effectivement, donc c'est ce qui gêne dans les propos de Xavier Dolan, parce que
en fait, on a besoin de ces catégories pour avoir une visibilité. On peut pas sans, même si on essaie de, même si dans un monde idéal, ce serait cool, on n'aurait pas besoin d'avoir ces catégories là. De toute manière, c'est des catégories auxquelles on va nous assigner. Si nous, on récupère pas ces catégories pour en faire quelque chose de plus positif, quand par exemple ces catégories sont un peu stigmatisantes, pédéguine par exemple, si nous on reprend pas ces insultes et on n'en fait pas quelque chose de positif, on n'a aucune visibilité en tant que personne discriminée pour notre orientation sexuelle, par exemple.
Ouais, effectivement, et puis ça remet en cause d'autres prix qui sont décernés. La TD Award de la Berlinale par exemple, ou les Queer Lions de la Mostra de Venise, enfin, c'est pareil, ce sont des prix qui sont décernés aux films qui mettent en avant des questions LGBT ou en tout cas des questions qui peuvent être marginalisées. Et je me suis dit aussi que par exemple en France ou j'allais dire en Europe mais pas forcément. Les questions, Xavier Dolan est québécois, donc c'est vrai qu'au Québec c'est un peu plus libre aussi, et l'homosexualité est moins marginalisée, mais dans des pays où l'homosexualité est encore criminalisée ou très, très fermement réprimée, on peut se dire que s'il y a des réalisateurs qui mettent en avant cette question-là, le fait qu'ils obtiennent un prix comme la Queer Palm, ça permet de rendre leurs films visibles, de rendre leur nom connu, et de valoriser leur travail qui peut être dangereux pour eux, pour lesquels ils ont pris des risques, etc. Enfin, c'est quand même un prix qui peut être vachement important. Et c'est un peu mettre en avant ces privilèges de Québécois blancs,
mec
cisgenre, bien qu'ils soient gays, de la refuser.
Et un peu hétéronormatif sur les bords.
Bah ouais, surtout qu'il a rien dit, il a été en compétition à Cannes, il y avait une femme dans le jury, et non pas qu'une femme, pardon, je me trompe, mais il y a qu'une seule femme, je pense, j'avais lu un truc, il y a qu'une seule femme qui a obtenu la Palme d'Or depuis la création du Festival de Cannes.
Ouais.
Je suis pas sûre qu'il y ait qu'une seule femme qui ait fait un film qui vaille la Palme d'Or, enfin... Donc voilà, donc c'est les propos un peu gênants. Et d'ailleurs, sans faire vraiment une revue de presse, parce que je n'ai pas toutes les références sous la main, mais en lisant les différents articles de presse française, en l'occurrence, qui ont repris les propos de Dolan dans Télérama et les propos de Romain Villet dans YAG, il n'y a que le Nouvel Obs qui donne raison, ou qui en tout cas a fait la part belle aux propos de Romain Villet. Tous les autres donne raison plus ou moins à Xavier Dolan sans regard critique sur ses propos, et qui plus est, et là c'est Le Figaro, j'ai la référence, enfin j'ai le nom du journal qui fait ça en tout cas, dans YAG, alors c'est un peu technique, c'est un peu pointilleux, mais c'est quand même important, dans YAG, dans l'article, il y a des intertitres qui introduisent le propos de Romain Villet, et les intertitres sont de YAG, de la rédaction de YAG, et non pas de Romain Villet. Et Le Figaro reprend les intertitres qu'il accorde à Romain Villet. Donc Romain Villet aurait dit que les propos de Xavier Dolan sont un coup de poignard à la communauté LGBT. Le terme coup de poignard est un interligne donné par YAG. Donc voilà, tout est transformé, les propos de Romain Villet sont transformés.
Ils sont mis hors contexte, comme tu racontais tout à l'heure.
Ils sont mis hors contexte, et puis ils sont attribués à quelqu'un qui ne l'a pas dit. Enfin, c'est un peu... Ça aussi, c'est un peu problématique, la question dont on traite la question en France. Et puis, on dit que ça agace les militants. C'est plus que de l'agacement, je pense. Enfin, en tout cas, les propos de Romain Villet, il juge consternant les propos que Xavier Dolan. Il est un petit peu plus qu'agacé.
Moi, ce que j'ai aimé dans son article aussi, c'est la manière dont il est de montrer qu'en fait, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est visible, donc en termes de catégorie ou en termes de groupe de personnes, etc., tout ce qui est visible en dehors de la catégorie neutre, comme on a dit tout à l'heure, universaliste, blanche, mâle, hétéro et cisgenre, est taxé tout de suite de communautarisme et d'entre-soi, alors qu'on ne parle jamais de l'entre-soi, par exemple, des hautes sphères politiques où il n'y a que des hommes et où ça nous paraît tout à fait normal et qu'on ne taxera jamais de communautarisme. Et on ne parlera jamais de communautarisme hétéro, par exemple.
Ouais. Et d'ailleurs, il revient bien là-dessus en disant qu'en plus...
Alors qu'il y a un entre-soi hétéro, il faut arrêter aussi.
Il y a de l'entre-soi bourgeois. Mais c'est, et en plus, il essaie de tirer ça en disant que la queerpam, justement, essaie de sortir de l'entre-soi. Enfin, c'est quelque chose qui récompense les films et qui ne récompense pas forcément les réalisateurs. Oui. Quand il parle de Le Guépard de Visconti ou de Pride, il montre bien que ce sont les films qui sont récompensés, pas les réalisateurs. Le Guépard n'a pas obtenu la queerpam parce que ça ne parle pas d'une question LGBTQIF. Alors que Pride, qui met en avant une communauté LGBT dans les années 80, est récompensée alors que son réalisateur est hétéro. Donc c'est un prix qui sort, justement, qui essaie de sortir, qui visibilise une certaine question en essayant de l'amener, justement, dans des endroits où il ne serait pas forcément amené et en essayant de sortir de ce communautarisme. Et Romain, juste une dernière chose, Romain Villet précise aussi que le soutien dont Xavier Dolan a bénéficié au début de sa carrière, quand il a fait « J'ai tué ma mère », qui parle aussi d'un garçon homosexuel, même si c'est pas le cœur du propos du film, quand il dans Les Amours imaginaires, quand il met en scène des relations destructrices certes, mais quand même à un moment homosexuel entre... pour Laurence Anyway qui met en avant le transgendérisme, et quand il parle de Tom à la ferme, qui est aussi la question de l'outing ou du secret autour de l'homosexualité dans Tom à la ferme. Enfin, voilà, sur 5 films, il y en a 4 qui mettent en avant des questions LGBTQIF. Xavier Dolan s'est jamais plaint du soutien qu'il a eu des militants et de la communauté LGBT au début de sa carrière. Donc c'est un peu... Certes, il a sorti Mommy, qui parle pas du tout, qui met pas du tout en avant des questions marginales et qui a été présenté à Cannes.
Et bien accueilli apparemment.
Et bien accueilli, ouais. Et donc, on peut se dire maintenant qu'il a atteint presque atteint ce qu'il cherchait, une reconnaissance. Surtout qu'il a une reconnaissance mainstream. Enfin, il est quand même hyper connu. Il fait des films qui touchent un très large public. Même ses premiers films touchent un public très large. La Queer Palm, c'est un prix supplémentaire qui récompense ses films et qui cherche pas à le rabaisser et à le ranger dans une catégorie de réalisateur gay.
Bon, on vous mettra l'article sur notre page, comme ça vous pourrez le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Tout de suite, on vous passe un morceau de The Knife, Pass des Sons, puisqu'il faisait partie de la bande originale
Des Amours imaginaires.
Voilà, qui est un film de Xavier Dolan. Pass This On, qui est sorti, je ne sais plus, en... Je vous dis ça tout de suite. En 2003, c'est... de l'album Deep Cuts. À tout de suite. Voilà, c'était Pass This On. On est de retour sur RCV 99 FM avec Jean Rage. Tout de suite, on va vous parler de la Bourgmesse. Alors, je ne sais pas le prononcer, c'est
Bourgmesse.
Voilà, c'est ça exactement. Qui est une foire de livres qui se déroule à Francfort. Alors, en fait, j'aimerais revenir sur un reportage que j'ai vu un peu par hasard dans le journal d'Arte du 10 octobre, l'édition de 13h20, qui n'est malheureusement plus disponible, mais du coup, qui parlait de cette foire du livre, qui veut dire littéralement « messe du livre », qui est une foire qui existe depuis l'invention de l'imprimerie, donc c'est-à-dire il y a 500 ans. Donc c'est quand même une énorme foire mondiale. Hein. Et du coup, tous les ans, elle accueille un invité spécial. Cette année, l'invité d'honneur est la Finlande. Ce que mettait en exergue ce reportage d'Arte, c'est premièrement le nombre considérable de femmes auteurs finnoises, puisque la moitié des auteurs qui ont fait le voyage jusqu'à Francfort étaient des femmes. Et deuxièmement, ce que le reportage approfondissait, c'était les raisons de cette différence avec d'autres pays européens notamment. Donc c'est les raisons de cette spécificité finnoise et un peu l'influence qu'ont eu les écrivaines dans le développement de la littérature moderne finnoise. Donc pour comprendre un peu mieux le pourquoi du comment de cette spécificité, l'équipe d'Arte est allée interviewer Sophie Oksanen, qui est une des auteures finnoises les plus influentes aujourd'hui, pendant cette foire du livre à Francfort. Et donc, d'après Sophie Oksanen, cette spécificité, elle viendrait directement de la langue finnoise, puisqu'il n'y existe pas de pronom genré. D'ailleurs, elle raconte notamment comment les traducteurs lui demandent régulièrement « Ce médecin, est-ce un homme ou une femme ?» et qu'elle répond à cette question « Ça n'a pas d'importance », parce qu'à elle, ça ne lui semble pas être de première importance de savoir le genre ou le sexe de la personne, enfin de son personnage. Et alors, moi, c'est cette théorie du pronom qui a surtout attiré mon attention. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est réellement l'absence de pronom genré qui a permis à la littérature finnoise de se développer telle qu'elle l'a fait et de laisser une place plus grande que dans la majeure partie des autres pays, dans la littérature, une place plus grande aux femmes. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de pronom genré, ça ne pousse pas à une bicatégorisation en genre féminin ou masculin à tout va, comme il peut y avoir en langue française. Alors après, je ne connais pas l'histoire de la langue finnoise. Je ne sais pas si auparavant, les pronoms étaient genrés et ça a été modifié par la suite. Je pense que non. En France, c'est à partir de la Révolution française et un peu avant avec la création de l'Académie française courant 17e, que s'est fixé un bon et un mauvais usage de la langue et que les théoriciens ont pensé façonner le système linguistique actuel. Or, on sait que des formes féminines ou féminisées de substantifs, comme poétesse ou encore doctoresse, existaient déjà au XVIIe siècle. Et du coup, certains, et certes, et donc c'est pas un truc qu'on a inventé aujourd'hui parce qu'on est en mode « Ah, on est des féministes et on veut féminiser les noms », même si on a le droit de le faire. Et du coup, certains et certaines imputent l'évolution du français tel qu'on le connaît à présent, non pas à une simple affaire de linguistique, c'est-à-dire pas, c'est pas dû à un pragmatisme de grammaticien, mais surtout une affaire de politique. Preuve en est, même si ça n'a rien à voir avec les pronoms genrés en l'occurrence, l'imposition du français d'Île-de-France à l'ensemble du territoire, aux dépens des personnes non lettrées d'ailleurs, pendant la Révolution française, enfin après, et qui avait pour objectif diffuser et d'inculquer une pensée unique à prétention universaliste via un système linguistique qui serait unique, qui serait le même partout en France. Donc en gros, le gouvernement révolutionnaire décide d'imposer une langue unique façonnée par eux et qui symbolise à l'époque l'abolition de la royauté et des privilèges, qui symbolise l'égalité entre êtres humains, le progrès, etc. Et c'était une forme d'homogénéisation de la pensée des Français et Françaises. Et donc cette campagne idéologique contre les usages du patois à l'époque, en province, j'en parle non pas parce que c'est à voir vraiment avec ce qu'on était en train de dire. Ce que je voulais souligner, c'est que la part du politique qu'il y a eu pendant cette période dans le développement de la langue française est hyper importante. Du coup, pour revenir à, en l'occurrence, à nos pronoms genrés et à la langue française, on pourrait dire, en gardant en tête ce fait qu'il y a une part de politique hyper importante dans le développement des langues, parce qu'en France, on a été très interventionniste, comme l'a montré ce que je venais de dire. On pourrait dire comme Élienne Viennot, professeure de littérature à l'université de Saint-Étienne et qui a écrit plusieurs ouvrages sur les femmes et le pouvoir pendant l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française. On pourrait dire comme elle que finalement cette inflexion qu'on a donnée à la grammaire, donc j'arrête pas d'en parler, je l'ai pas encore dit exactement ce que c'était, je parle en fait de la masculinisation systématique en français. Je vais le dire même si ça fait pas du bien à entendre, on nous l'a tout dit quand on, tous et toutes dit quand on était à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin. Et du coup, cette masculinisation systématique proviendrait, d'après Eliane Viennot, d'un dessein politique. Ce serait une entreprise misogyne qui a fait en sorte, à l'époque, que les usages du français soient mis en conformité avec une organisation patriarcale de la société. Ce serait donc, et j'adhère personnellement à cette théorie qui n'est pas une théorie, je vous le dirai pourquoi, l'école républicaine qui a imposé des règles masculinisantes du temps de la démocratisation de l'école. Alors pourquoi c'est pas qu'une théorie ? Eliane Viennot en parle dans son livre qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin » où elle met en lumière un ensemble de stratégies qui ont été mises en place à l'époque pour l'imposition des règles masculinisantes et qui montrent bien que ces règles n'allaient pas de soi, que ça venait pas d'un pur pragmatisme grammatical. Donc parmi ces stratégies, il y a quand même eu une proposition de loi pour interdire aux femmes d'apprendre à lire au début du XXe siècle. C'est quand même pas mal. Donc il y a bel et bien une tentative, qui a réussi d'ailleurs, d'écarter les femmes de la sphère littéraire et de la vie politique pendant cette Révolution française et les années qui ont suivi, et de réaffirmer jusque dans la langue la domination masculine. Pour revenir, nous, aux Finnois et au développement de la littérature finnoise, qui s'est développée d'ailleurs avec une participation importante de femmes auteurs, je pense qu'effectivement, l'absence de pronoms genrés a dû y contribuer. Peut-être pas en soi, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de pronoms genrés, ça témoigne aussi d'une organisation de la société forcément moins patriarcale, même si c'est un peu un raccourci. Et puis, imaginez en termes de représentation et d'identification la liberté que ça peut laisser, et l'impact dans la vie de tous les jours que ça peut avoir de ne pas avoir cette absence de pronoms genrés, t'en penses quoi ?
Bah justement, en t'écoutant parler, je réfléchissais. Et pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'on ait écarté les femmes écrivains, tout ça, preuve en est de toutes les femmes écrivains qui ont pris des noms d'hommes pour pouvoir publier leurs ouvrages, parce que de toute façon, elles ne pouvaient pas travailler. Et j'avais pensé à un autre truc que j'ai oublié et qui va me revenir certainement après. Mais pour revenir aussi au fait que le neutre dans la langue finnoise a participé au fait que les femmes aient eu plus
de place
dans la littérature, ça montre aussi justement qu'il n'y a pas eu, comme en France, une politique de masculinisation à tout va de la société. C'est vachement intéressant. Parce que même quand on y réfléchit, en allemand, par exemple, il y a un pronom neutre. Donc il y a des mots neutres en allemand, il y a des noms neutres. Alors il y a quand même une division de la société en féminin-masculin. Mais on a quand même gardé le neutre qui n'existe pas en français ou dans d'autres langues.
En fait, c'est vraiment un truc, c'est une spécificité bien française en l'occurrence. Enfin non, il y a une masculinisation systématique dans d'autres langues latines, en espagnol et en...
En italien aussi. Hein.
Et en italien, mais par exemple dans les langues germaniques type anglais et compagnie, il y a toujours un pronom neutre. Ouais. Le pluriel est neutre, on ne dit pas si c'est un homme ou une femme, et en plus il n'y a pas de processus de vénération, je ne sais pas comment le dire, en anglais. Et il y a quand même quelque chose qui est un petit peu moins fort en italien et en espagnol, c'est qu'on dit rarement les pronoms personnels.
Ouais.
Du coup, on n'est pas obligé de préciser, en tout cas dans les pronoms, si c'est des hommes ou des femmes, ou s'il y a d'hommes ou plus de femmes dans le truc.
Et en allemand, le pronom...
C'est complètement aberrant en français de dire le masculin l'emporte sur le féminin quand même.
Bah ouais, surtout que c'est toujours... Moi, je me souviens quand même des fois des profs de français qui disaient « Bah oui, mais même s'il y a un homme ou un mot masculin dans une phrase autour de plein de trucs féminins, enfin de mots féminins, c'est toujours le masculin qu'on accorde. » Et en allemand, le pluriel est féminin. Petite parenthèse.
Donc, pour revenir un peu sur notre bourgmestre et la longue tradition de femmes écrivaines en Finlande, ce qu'explique aussi Sophie Oksanen, toujours, concernant l'influence de l'écriture des femmes, c'est que, par exemple, le premier roman finnois a été écrit en 1840 par Fredrika Wilhelmina Carstens. Alors, il n'existe pas en français, vous en doutez, vu que c'est le premier roman finnois. Je tairai le titre imprononçable du roman. Mais du coup, cette dame était mariée à un grand poète finnois également. Et voilà. Et toujours est-il que les auteurices ont joué...
Les auteureux.
Voilà. On joue un rôle important dans le développement politique aussi et littéraire. C'est ça qui est très différent avec la France. C'est qu'elles donc elles ont joué un rôle important dans le développement politique et littéraire de la Finlande, à l'inverse de la France où elles ont été écartées de la vie politique pendant tout le siècle des Lumières. Et à titre d'exemple, le roman historique en Finlande est né alors que le pays était un grand duché sous la souveraineté russe, donc c'était des années 1800 aux années 1900. Et le roman historique est un des éléments forts qui a participé en fait à la construction de l'identité finnoise. Or, c'est un genre qui a été d'emblée investi par des auteurs et qui ont su mettre en valeur la participation des femmes dans la construction de ce qu'on pourrait appeler la nation finnoise. En fait, c'est ça aussi qui a permis, à mon avis, d'avoir, que ce soit en termes numériques ou en termes d'influence, une présence si forte d'auteurs femmes.
Ouais, il y a eu toute une construction historique et politique
à laquelle elles ont participé, même dans les représentations.
Ouais.
Parce qu'en France, les femmes, bien évidemment, ont participé aux guerres, etc., ou à la construction de l'identité. Bon, là, on part sur d'autres débats, mais elles sont invisibilisées dans ces processus historiques-là.
Bah surtout, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant. Par exemple, à la Révolution française, quand il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 ans après, il y a eu la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges. Jamais personne n'en a entendu parler, ou très peu de monde, quoi. Alors qu'elle existe, qu'elle est publiée, d'ailleurs, on peut encore la trouver. Enfin, moi, je l'ai trouvée. Et elle est en ligne sur Internet. Enfin, il y a pas mal de choses. Et c'est pas juste, elle met pas juste de féminin dans ce qui a été édicté, quoi. Elle demande vraiment, y a des vrais droits, tout ça. Et elle a été, j'ai lu un truc là-dessus, elle a été écartée, mais vraiment, enfin, elle a reçu des menaces, elle était vraiment stigmatisée, et surtout qu'au départ, elle était illettrée, tout ça, elle a tout appris sur le tas, en autodidacte, et elle était hyper, hyper méprisée. Non seulement parce que c'était une femme, mais en plus parce que c'était une femme issue des classes populaires.
Youhou la France. Bref, et alors aujourd'hui qu'est-ce que ça donne pour finir sur ça en littérature donc cette tradition d'auteur féminine finnoise, ça donne des romans qui ont une perspective une perspective féminine et féministe à l'histoire, du coup une histoire qui n'a pas été seulement du ressort des hommes tout simplement, et donc elles bénéficient d'une visibilité mais qu'elles se sont elles-mêmes données en ayant la possibilité ou en faisant en sorte de pouvoir écrire l'histoire avec les hommes. Et du coup, ça donne, par exemple, Sophie Oksanen, dont j'ai parlé juste avant, qui écrit des romans, elle en a écrit 4, il me semble. Ça donne des romans, pour vous faire une idée de ce qu'elle écrit, qui ont l'air très très intéressants d'ailleurs, comme Purge, qui est sorti en 2008 et qui avait obtenu à l'époque le prix féminin. Qui se déroule donc à la fin de l'été en Estonie en 1992. À l'époque, c'est la fin de l'Union soviétique, donc que les Estoniens fêtent, puisque ça signifie aussi fin de l'occupation russe. Sauf que Alide, qui est une paysanne, a peur des remontrances des Russes qui sont en train de partir et des pillages, et donc elle vit recluse, cachée chez elle dans sa ferme. Et puis un jour, elle rencontre dans son jardin Zara.
Oh, je l'ai lu.
Une femme qui a pris la fuite, tu vas pouvoir nous en parler, et que des mafieux russes sont obligés à se prostituer à Berlin. Elle la retrouve dans son jardin. Comme elle a peur, elle hésite un peu à l'accueillir, et puis finalement une amitié naît de cette rencontre. Et Sophie Oksanen nous permet pendant 5 ans, donc c'est quand même un roman historique, c'est un procédé qu'ils utilisent beaucoup apparemment dans la littérature finnoise, c'est de parler de, enfin, prendre un roman historique aborder des questions qui sont liées à l'intime, soit à la famille, soit à la sexualité, etc., mais qui se déroule sur plusieurs années et qui permet aussi d'avoir une vue d'ensemble historique et politique. Mais du coup, peut-être tu peux nous parler un peu du livre.
Ben, je l'ai lu, j'étais au lycée, donc ça remonte un peu, et je l'ai trouvé dans le CDI de mon lycée d'ailleurs, et puis je l'ai lu comme un roman, j'avais moins de conscience féministe à l'époque, donc je m'en souviens plus très bien, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant, puis ça met vraiment au cœur du livre deux femmes qui se sont battues, qui se battent encore, qui apprennent à se connaître,
etc.
qui ont été humiliées et qui, enfin, la dame du début là qui retrouve, je me souviens plus des noms des personnages déjà, mais la dame du début qui retrouve Zara dans son jardin là, on voit vraiment qu'elle se méfie et qu'elle est porteuse d'une, enfin moi je me souviens de ça aussi comme elle est porteuse d'une, comment on dit, d'une certaine norme, enfin d'une certaine vision des choses, et elle se méfie beaucoup de cette jeune fille. Elle a très peur qu'elle soit volée. Elle se rend bien compte qu'elle a vécu des choses qu'elle a pas du tout envie d'imaginer et qu'elle cautionne pas. Enfin, il y a toute cette, il y a aussi une différence de génération, de vécu et d'histoire. Cette méfiance mutuelle entre les deux femmes, qui même si il y a une relation amicale entre elles deux, se fait toujours sur fond de défiance, de je cache mes affaires parce qu'il y en a une qui fouille et l'autre qui enferme tous ses bibelots, ses couverts en argent, tout ça parce qu'elle a peur d'être volée. Ouais. Enfin, c'est il y a une vraie interrogation sous-jacente, je pense. Moi, je l'ai pas lu avec ces interrogations là à l'époque, mais c'est vrai que de mémoire. Ça m'a marqué parce que je m'en souviens encore maintenant. Il y a une vraie interrogation justement sur les normes que peuvent porter les femmes aussi sur d'autres
les représentations,
femmes.
Représentations, oui.
Ouais, voilà.
Bon bah voilà. Du coup, moi, j'en ai pas lu de ces romans. Il y a aussi un autre roman qui est le second qu'elle a sorti, qui s'appelle Baby Jane, là qui aborde la thématique de l'amour lesbien. Donc voilà, plein de romans qui ont l'air vraiment intéressants. Je vous invite à les lire. J'ai fini ma rubrique. À retenir donc de cette rubrique, la littérature finnoise a bénéficié d'une tradition égalitariste, on va dire.
Et d'ailleurs, je me rappelle, genre, je me souviens plus du titre, je suis désolée. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est juste un prénom, mais je ne me souviens plus. J'ai lu un roman finnois sur l'intersexualité, et qui est très intéressant. Voilà.
Bon, tout de suite, on vous met une petite chanson avant de passer bientôt à la fin de l'émission. On vous passe Depeche Mode, World in My Eyes, un titre qui est sorti de l'album Violator, sorti en 1990. Pourquoi cette chanson? Bah, je la kiffe, c'est tout. À tout de suite.
And you won't have to move, you just sit still.
Anaëlle, nous t'écoutons.
Donc, pour terminer cette émission, je vais revenir sur un article qui a été écrit par une journaliste qui s'appelle Lily Boisvert. Oui, c'est ça. Une journaliste québécoise. L'article commence comme ça. L'autre jour, je me suis promenée seins nus. Je suis journaliste et à ce titre, j'ai décidé de documenter ce qui se produit concrètement quand une femme se promène torse nu l'été. Donc cet article a été publié par le Huffington Post Québec le 10 septembre 2014. Et donc elle précise dans la suite de l'article que les réactions qu'elle a le plus observées, enfin la réaction qu'elle a le plus observée, c'est l'indifférence. Après, elle a eu quelques sourires, un rire, une interpellation. Voilà. Elle était accompagnée d'un photographe qui était lui aussi torse nu. Et cette journaliste a voulu mener cette expérience pour faire suite à différentes interrogations qui l'ont traversée durant l'été par rapport à la nudité du torse féminin. Et elle revient en particulier sur un fait divers qui a eu lieu à Montréal en août de cette année. Une fillette de 3 ans qui a été expulsée avec sa maman d'une pataugeoire parce qu'elle ne portait pas de haut de maillot de bain. Donc il y a eu deux sauveteuses, enfin deux surveillantes de baignade qui se sont opposées, enfin qui ont demandé à la mère de mettre le haut de maillot de bain à la petite fille. La mère a refusé et donc les deux surveillantes de baignade ont demandé à la mère de sortir. La mère a refusé également. Le ton est monté, elles sont venues toutes les trois aux mains d'ailleurs et c'est la petite qui a été blessée, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, et la journaliste dénonce d'une manière générale, pas que par rapport à ce fait divers, mais en partant de ce fait divers et en partant aussi de la réaction d'un sexologue, dont je vous parlerai tout à l'heure, par rapport à ce fait divers. Donc la journaliste dénonce l'hypersexualisation des filles et des femmes et dès le plus jeune âge. Voilà. Donc le sexologue dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été interviewé par le Journal de Montréal, par Marie-Ève Dumont, explique, selon lui, que la nécessité de mettre des hauts de maillot de bain aux petites filles serait pour... Alors, j'ai pas la citation parce que l'article est plus disponible en ligne. Enfin, il est payant, en fait, maintenant. Moi, je l'avais trouvé à l'époque quand je l'avais lu en libre accès. Mais là, il est... Donc, j'ai pas la citation exacte. Mais en gros, ce serait pour ne pas inciter les pédophiles à agresser sexuellement les petites filles. Parce que le torse nu des petites filles les inciterait ou enfin voilà ça comme ce sont des petites filles même si elles ont 3 ans le leur torse nu amène à, je sais pas invitation ou
voilà,
sous-entend la poitrine enfin voilà donc c'est quand même on est en plein dans le thème de l'hypersexualisation
et puis ça remet encore une fois la responsabilité de l'agression sexuelle sur l'agressé et non l'agresseur
voilà. Et l'argument est plus que limite, justement, et on retrouve la bonne vieille rhétorique de la femme tentation qui doit se cacher parce que l'homme ne peut pas se contrôler. En plus, en prenant l'exemple des pédophiles, c'est quand même très 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 limite parce que ils sont...
Bah déjà, c'est un peu normalisé un désir qui est...
Bah ouais, puis c'est une maladie qui est criminalisée, donc...
Pathologique, ouais.
Ouais, enfin c'est n'importe quoi, j'ai lu l'article, j'étais un peu ébahie. Et encore, c'est gentil. Donc Lily Boisvert souligne qu'un homme torse nu ne pose aucun problème, alors même que les femmes hétérosexuelles ou les gays, par exemple, sont plus attirées par un homme que par une femme, enfin par le corps d'un homme que par le corps d'une femme.
C'est pas tautologique.
Non, c'est... et c'est... Alors que c'est... ça pose pas de question, alors qu'une femme qui serait torse nu, même une femme qui allaite, par exemple, même si ça pose... moins de problèmes où on lui demande de se cacher ou de voilà une femme torse nu c'est juste pas possible il lui arriverait elle décrit dans son article toutes les menaces que peut recevoir une femme qui aimerait se balader torse nu ou à se faire agresser sexuellement enfin voilà c'est vraiment
ou même sans aller jusque là des regards tout simplement
ouais des regards ou des insultes
des regards indiscrets ou persistant, on n'arrive plus à parler.
Persistant. Ouais, ou des insultes. Enfin, voilà. Donc l'article est assez intéressant, on le mettra en ligne aussi, parce que lui est disponible. Et donc si l'expérience peut sembler anecdotique, en plus parce que la journaliste était accompagnée d'un homme, lui aussi torse nu, mais d'un homme quand même, donc elle n'était pas seule, elle pose quand même des questions importantes sur les restes persistants d'une forme de patriarcat qui est en plus banalisée et que tout le monde a intériorisé, enfin même les femmes. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de me balader seins nus dans la rue. par certainement d'une part par peur de ce qui pourrait m'arriver. Enfin, c'est vrai que c'est intériorisé par tout le monde, alors qu'en plus ça porte, enfin son article porte surtout sur les discours qui sont normatifs plus que dans les les faits. Que dans la pratique, parce que je suis pas sûre qu'en plus une femme qui se baladerait seins nus dans la rue soit agressée ou violentée, ou elle peut être interpellée, elle peut avoir des regards persistants, ça peut étonner, surtout en France, parce que là elle l'a fait dans une des rues principales de Montréal, mais elle dit que elle, ce qui lui est arrivé de majoritaire, c'est l'indifférence. Et je trouvais que les questions par rapport au discours de normativité de la femme qui doit se cacher alors que l'homme peut faire ce qu'il veut et se découvrir et sont intéressants et sous-tendent l'article de manière assez forte. Voilà, donc on vous mettra en ligne et c'est la fin de l'émission. Nous sommes pile à l'heure aujourd'hui.
Voilà, on vous mettra pas la chanson qu'on avait prévu de mettre vu que nous n'arrivons
pas
le faire fonctionner. Mais vous aurez quand même un peu de musique et puis on vous dit à bientôt, à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, bisous.